premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Salut à tous et à toutes, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Bon alors, comme on vous avait dit la semaine dernière, c'est une émission qui est un peu spéciale parce qu'elle est montée, donc c'est un enregistrement qu'on aura fait la veille, là, le jeudi 24, et parce que la radio elle ferme pour 10 jours, mais nous on pense quand même que ça reste important malgré tout d'essayer quand c'est, enfin autant que c'est possible de pas faire juste de la rediffusion d'anciennes émissions, mais de continuer à relayer la parole de prisonniers, prisonnières. Parce qu'on sait que la période actuelle, elle est quand même particulièrement vénère, notamment avec tout ce qui serve par rapport au coronavirus pour encore nous prendre des droits, quoi. On sait qu'en ce moment, en plus, avec les fêtes, c'est des moments qui sont quand même encore plus durs à l'intérieur quand on est enfermé et que c'est encore plus la galère en ce moment, que les parloirs ont été réduits, qu'il y a la question des hygiophones, qu'il y a la question du colis de Noël aussi qui est quand même une sacrée blague cette année où il n'y a quasiment plus rien qui est autorisé. Parce qu'il n'y a pas la nourriture périssable qui est autorisée. D'ailleurs, on nous a informé là un peu avant l'émission, et on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais qu'apparemment à la prison de Nîmes, il n'y avait carrément pas de colis de Noël. Et voilà, enfin, du coup, s'il y a des gens qui veulent nous donner des nouvelles, faut pas hésiter. On rappelle aussi juste rapidement, peut-être au passage, que nous, on pense que ce truc du colis de Noël, en fait, ça devrait être un droit pour toutes les prisonnières et prisonniers à n'importe quel moment de l'année, et que les proches, ils devraient pouvoir ramener de la bouffe. Quand c'est possible. Et on voulait aussi en profiter en parlant des colis de Noël pour passer beaucoup de force à tous les proches, parce que c'est celles et ceux qui soutiennent et qui font le taf de dehors pour voilà pour soutenir les prisonniers et prisonnières à l'intérieur, quoi. Enfin, parce qu'on pense que c'est important de le rappeler, le journal L'Envolée, donc qui est fait avec d'autres personnes que celles et ceux qui font la radio, quoi, en plus de nous, dont il y a le numéro 52 qui est sorti récemment, il n'est pas passé dans un certain nombre de tôles. Faut pas hésiter à nous faire des retours si vous êtes abonné et que vous avez toujours pas reçu le journal. On essaiera de le renvoyer en recommandé, de mettre un peu la pression sur la direction pour que vous puissiez enfin l'avoir. Et si vous avez des proches qui sont incarcérés en ce moment, faut pas hésiter à nous écrire en nous envoyant le nom, le numéro d'écrou et la prison dans laquelle la personne est. C'est gratuit pour les prisonniers et prisonnières. Et donc, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75-019 Paris, L'Envolée-FPP. Pour nous appeler, le temps des vacances, c'est au 07 52 40 22 48. Le 07 52 40 22 48. Je me rends compte que je n'ai pas du tout dit qui il y avait un peu dans cette émission. Déjà, il y a Arthur qui est là. Il y a moi, Alex, il y aura Serge que vous allez entendre, sûrement, et d'autres copains. Et voilà, c'est un peu tout dans cette émission. Regardez, peut-être que pour rappel, pour les réseaux, si vous voulez nous joindre, on est disponible sur Instagram, Facebook, WhatsApp ou par mail, et qu'il y a le site l'envolée.net. Aussi pour dire, parce que la semaine dernière et cette semaine, on a diffusé et on va diffuser des témoignages qui ont été relayés par d'autres radios, qu'il y a un certain nombre d'autres radios qui essayent de soutenir et de relayer la parole des prisonniers prisonnières. C'est le cas par exemple de Casse-Muraille à Nantes, qui est tous les dimanches midi sur Jet FM, de La Petite Cuillère, qui est le premier et le troisième jeudi du mois sur Radio Canu et Radio Dio de 20h à 21h, et enfin Parloir Libre, qui est tous les samedis de 19h à 21h et le jeudi de 20h30 à 22h. Et donc voilà, là on va vous présenter rapidement le fil de l'émission. Comme je vous disais, c'est une émission qui est enregistrée et du coup on va relayer quand même pas mal de témoignages, d'enregistrements. Ça risque d'être un peu brouillon, mais voilà, on essaye de faire le taf, quoi.
Ouais, salut. Du coup, effectivement, là on n'est pas très nombreux, mais on va essayer de faire entendre d'autres voix un peu que juste les nôtres pour pas que ça soit trop ennuyeux, même si c'est une émission un peu enregistrée, comme disait Alex, un peu bricolée. Et on a quand même finalement pas mal de choses à parler. En premier, on va parler des Baumettes, parce qu'en fait, il y a des choses assez trash en fait, qui s'y passent là tout de suite, dont qui ont été relayées, là, comme disait Alex, notamment sur l'émission Parloir Libre à Marseille, dont on va passer des extraits, et dont on va parler. On va revenir aussi avec un autre témoignage donc sur ce qui s'y passe à la MAF là-bas depuis en fait, déjà un certain temps, parce qu'on en avait déjà aussi parlé au moment où il y avait déjà communiqué qui était sorti. Et après, donc la troisième partie de l'émission, ça sera largement consacré à l'infâme, donc dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, et dont ça fait en fait plus de 3 ans, je crois, qu'on parle dans cette émission, qu'il intervient dans cette émission sous différentes formes, et donc qui là nous a écrit en fait une très longue lettre. Bon, on y reviendra, voilà, et donc on vous lira cette très longue lettre dans la dernière partie de l'émission.
Ouais, c'est plus qu'une lettre, hein. C'est un peu une introduction, une présentation un peu de ce qu'il est et qui va se compléter sûrement sur l'émission de la semaine prochaine. Et on voulait commencer, du coup, comme ce que tu disais, par parler de la MAF, donc de la maison d'arrêt pour femmes des Baumettes à Marseille. On en a déjà parlé dans le dernier numéro pour celles et ceux qui l'auraient reçu, parce que c'est une prison où ils ont mis ils ont mis des fenêtres anti-bruit parce que les riverains et les riveraines se plaignaient. Et donc, en fait, à l'intérieur, dans la MAF, il n'y a plus qu'une espèce de grille de fer sur le côté où il y a l'air qui peut passer, mais il n'y a plus moyen d'ouvrir vraiment les fenêtres. Donc, à la fois pour les yo-yo, c'est grave la galère, mais c'est aussi genre la galère pour cuisiner dans le quotidien, quoi. Et ça fait quelques temps qu'il y a des prisonnières de là-bas qui prennent l'initiative de contacter dehors, d'essayer de faire sortir leurs paroles. Pour essayer de résister, parce que il semblerait qu'il y ait une équipe qui leur mette de plus en plus la pression, qu'il y ait des histoires de fouilles violentes, d'attouchements, voire d'agressions sexuelles pendant des fouilles, de violences, de pressions, de fouilles systématiques. Ça parle de une fouille mensuelle plus des fouilles comme ça un peu aléatoires. Et du coup, face à tout ça, il y a de la résistance, il y a eu un blocage, il y a des prisonnières, comme je disais, qui ont appelé Parloir Libre. Et donc là, on voulait vous passer un extrait de cette émission.
Ouais, et donc vous allez voir, donc on a un peu coupé, Parloir Libre, ouais, c'est une émission qui est retransmise, comme on disait, à Marseille, et qui est captée du coup au Baumettes. Et ce que vous allez pouvoir un peu entendre là dans les extraits qu'on a coupés, c'est que bah, en fait, c'est des gens de l'intérieur qui appellent et elles savent qu'elles prennent des risques en le faisant. Mais du coup, elles communiquent aussi en fait les unes avec les autres à travers cette émission. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir en fait là en quoi c'est une prise de parole et aussi en fait voilà, la radio peut être utilisée comme un outil de lutte. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui vont parler voilà, essentiellement des gens de dehors ou dedans. Et donc parfois, voilà, vu qu'avec le montage qu'on a fait, les coupures sont pas toujours très nettes, mais voilà, donc il y a 4 ou 5 témoignages, et donc c'est ce qu'on disait, c'est que les faits sont quand même assez évidents, vu le nombre de personnes en fait qui rapportent ces choses-là, c'est quand même évident qu'il y a quelque chose, enfin un vrai problème, et qu'il n'est pas juste une erreur, enfin un cas isolé à la MAF des Baumettes, quoi.
Ouais, et juste pour dire, Radio Libre, c'est une radio qui permet de faire des dédicaces et que les prisonniers, prisonnières, leurs proches puissent appeler en direct et passer des messages.
Parloir Libre.
Parloir Libre. Et du coup, voilà, Cimer pour la fin, voilà. Et du coup, bien wesh pour l'utilisation par les prisonnières et beaucoup de force. On vous passe l'extrait et puis on revient juste après.
Bon, les filles, au cachot, oh, réveillez-vous! J'espère que vous faites pas une dépression ou quoi que ce soit, hein. Le mental, force, vous êtes défaillantes, vous représentez les murs de la prison. Voilà, moi je sais que vous êtes des petits soldats, je te fais de gros 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 bisous, de gros 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 bisous, tu es une grosse faillante. Chérine, ben écoute, force à toi, et les filles je vous embrasse tous, et sachez qu'on va pas se laisser faire par rapport à tout ce qui se passe. Et les fouilles avec des fouilles qui sont pas normales, quoi, inhumaines, avec la force et tout ça. Voilà, on va pas laisser ça passer ça. Et la chef, elle va sauter vite fait. Elle va plus rester dans cette prison. Elle va partir. Voilà. Et s'il y a des SS qui m'écoutent, ben écoutez, je vous emmerde. Et c'est Marseille bébé. Dans la cour de promenade, c'est Marseille bébé.
Merci.
Voilà.
Merci et la zone.
On vous embrasse fort, fort, fort. Et on est là, on lâche pas le morceau. On est toujours là, quoi qu'il arrive. Faire 50 000 fouilles, c'est la même chose. Voilà, on est belles. Merci. Et voilà, je pense à vous.
On t'embrasse aussi, hein. On t'écoute et on est...
Et voilà, faire des gros bisous à toute la MAF et encourager toutes les filles à rester fortes et à ne pas se laisser aller par rapport à tout ce qui se passe. Et même si certaines ne l'ont pas subi encore, on est tous à l'intérieur et c'est susceptible de nous arriver à tous, que vous avez tous vu que on soit agité ou pas agité, eh ben ça arrive à n'importe quelle personne. Et tout le monde est fouillé au jour d'aujourd'hui. Je comprends pas que en 2020 ça se passe encore de cette manière là, que ça utilise la force parce que je sais pas, la chef elle a un ego surdimensionné, et parce que on nous ordonne de obéir ou qu'on nous parle comme des animaux. Et enfin, les personnes qui ont peur, je respecte le fait qu'ils parlent pas ou quoi que ce soit, mais je vous dis, tapez à une fenêtre, à la plaque de fer qui coupe votre respiration toute la journée, ou votre oxygène elle se renouvelle pas, ou quand vous faites à manger ou vous faites pas à manger à cause de cette plaque de fer, la moitié de votre cerveau elle est paralysée parce que l'oxygène elle se renouvelle pas, en manque d'énergie, vous faites rien dans la cellule, vous chiez dans la cellule, ça sort pas, vous douchez, ça sort pas. Tapez dessus, ne fait rien du tout. Enfin, insulter les surveillantes, ça sert à rien. On va avoir 3 mois en plus et ne pas sortir. Au jour d'aujourd'hui, eh ben, on veut que Dupond-Moretti vienne nous voir. Il vient voir comment on vit ici et comment ils nous coupent l'envie de vivre. Parce que la moitié des gens ici sont déphasés. Tout le monde a envie de mourir. C'est un grand mot, mais tout le monde a envie de mourir par rapport à la manière dont on est traité. Et voilà, enfin, j'aimerais dire que voilà, les filles qui ont été touchées là, ces quelques jours, ou à qui on a écarté les fesses, écrivez, parce que si on n'écrit pas, ben ça avance pas, faut faire de leur manière aussi. Et à 6 heures du matin, tapons. À midi, tapons. et à 22h tapons. Passe au week-end parce qu'il y a Monsieur Croissant, le chef. Et il est sympathique, il essaye d'être compréhensible avec nous, même si bon, c'est son devoir, son devoir, c'est son devoir. Et par contre, la chef parisienne qui emploie des choses qui sont pas employées sur des êtres humains, et voilà, enfin, je sais pas ce qu'elle a, le problème qu'elle a, mais elle a un gros problème. Et j'ai pas peur de le dire. Et je sais que si on m'écoute, on sait qui je suis. Et voilà, enfin, je dénonce ce qui se passe. Et j'aimerais que dehors, eh ben, il y a des gens qui bougent pour nous. J'ai vu qu'il y a des artistes qui sont venus. Radio Galère, ils ont été les premiers à nous avoir fait écouter votre son. C'est eux qui nous l'ont proposé. Et il est super fun. Et voilà, enfin, je vois que vous êtes pour les droits des femmes aussi. Enfin, vous êtes des révolutionnaires, je pense aussi. Enfin, je le suis en tout cas. Je suis pas une délinquante, ni un voyou, je suis en prison, mais voilà, je ne sais pas. Et si personne ne fait rien, eh ben il n'y a rien. Et tout le monde se plaint, tout le monde le vit mal. Alors arrêtons de ne pas bouger et de voilà.
Bah écoute, ma sœur,
on va le subir quand même.
Franchement, écoute, j'ai pas de mots parce qu'elle m'a trop touchée en fait. C'est en fait,
et
on n'est pas.
Je suis désolée hein, que parce que il y en a une qui est au cachot là. Elle était énervée le soir, elle a pété un câble, oui, elle a cassé des trucs dans sa cellule, ça lui appartient. Le matin, cette chef que je vous parle, elle est venue, elle lui a crié dessus comme un chien, elle lui a dit de balayer ses bouts de terre qui étaient dans sa cellule. La petite, elle est partie prendre la balayette pour balayer son truc. La chef, avec son égo, elle est partie, elle l'a poussée au sol, la petite. Puis après, ils sont mis sur elle, ils l'ont frappée, ils l'ont maîtrisée, ramenée au cachot, en petite culotte, soutien-gorge. Elle y est pour rien, là. Elle qui était avant, c'est parce qu'elle a voulu être, elle a pas voulu être fouillée. Ils lui ont écarté les fesses. Ils l'ont traîné. Ils l'ont secoué de partout. Je sais pas s'ils l'ont frappé. Je vais pas dire rajouter ce qui... je ne sais pas. Mais voilà. Ils t'ont frappé ? Ils t'ont frappé ? Ouais, ils l'ont frappé. Elle vient de le dire.
Ok.
Et je dis, enfin, soyons tous solidaires, même elles qui ont peur. C'est moi, je vais prendre le maximum, vous n'allez rien prendre. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous, tapons. Et à 6h du matin, midi, 22h, désolé pour les personnes âgées qui dorment, etc., mais il faut faire quelque chose. Et voilà.
Ok, ok.
Grosse force à vous, en tout cas, courage. Ouais.
Franchement,
tout
c'est
plein
de courage de ta part d'être le porte-parole de tout ça, parce que c'est pas évident, il y a beaucoup de conséquences derrière.
Ça, le truc.
Ouais, mais ça fait des années qu'on écrit, qu'on va voir les points.
En fait, faut faire virer la directrice.
En fait, il y a personne qui fait rien pour nous.
Et du coup, si tu veux, je peux lire la dédicace qu'on m'a donnée de toi. Bad Girl de Drix, pour toutes les femmes des Baumettes. Force à nous, tapez sur ces plaques en fer qui vous empêchent de respirer pour vous faire entendre. Notre désarroi, notre peine, nos douleurs. Ce n'est pas grand-chose, mais tous ensemble, battent nos cœurs pour nos droits, notre dignité, notre santé mentale. À partir de lundi, on tape à 6h du matin, à midi et 22h. Gros bisous, ma DRZ et ma Chai, et bisous.
Ouais,
aussi précise, tu vois.
Il y a des chefs qui nous considèrent comme des merdes, alors qu'on est des êtres humains.
Ouais, ouais, je comprends.
On est comme eux. Des erreurs de parcours dans la vie, ça arrive à tout le monde.
Bien sûr.
Donc, faut qu'ils nous considèrent comme des êtres humains et arrêter de nous considérer comme des chiens. Quoi.
Exactement.
Mmh. On n'est pas des chiens.
En tout cas.
Et par exemple, la nuit, si on veut sonner, ils arrivent 3 heures après. Donc, ça, c'est pas normal non plus. On demande d'aller se faire soigner avec ça. Ils ne veulent pas. Ils nous disent, vous restez comme ça. Ça, je suis pas d'accord. C'est pas normal,
c'est
pas...
sécurité, en plus.
Donc, et déjà, en plus, là, plus ça va et plus il déborde, non, je suis pas d'accord. Donc, même moi, si moi, ça m'est pas arrivé de me faire écarter les fesses et tout, les filles qui ça est arrivé, je les comprends tout à fait leur réaction. Donc, ouais, il faudrait essayer de faire remonter l'info, s'il vous plaît. Et je veux dire aussi que je n'appelle pas à la révolution, en fait. C'est qu'on a les pieds liés, les mains liées. On écrit, on essaye de faire des procédures et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Je demande jusqu'à ce qu'on tape sur ces plaques de fer qui nous bouchent la respiration. Et comme ça, au moins, enfin, au moins un moment, on vient se préoccuper de nous. On me demande qui y a, au fait. Et voilà, je demande pas la révolution. Ne vous battez pas avec les surveillants, ne les insultez pas, ne les calculez pas. Tapez juste, ça dérangera les voisins et ça les dérangera encore plus que nos voix quand on parlait entre nous pour ne pas péter les plombs quand on avait les fenêtres. Et on verra si on va les enlever, ces fenêtres. Bon, la mienne, je l'ai enlevée, mais il n'y a personne qui l'a fait, mais tout le monde se plaint.
Si, si.
Allô, allô.
Allô?
Allô? Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, tu as
j'appelle pour faire une dédicace pour les filles occasions. Ben, Jaina, écoute, j'espère que voilà, tu seras bien. Que tu as vécu mon fils et puis c'est moi ce matin. Voilà. Apparemment, la chef, elle a joué au plus 7 dans son bureau et c'est tombé sur moi. Elle me l'a répété plusieurs fois. Voilà quoi, j'ai été fouillée par trois personnes et voilà, on m'a demandé de faire des conditions malsaines et incorrectes. On m'a menotté, le pantalon baissé, et on a voulu me jeter au cachot, moi aussi, Jeannette. Parce que moi, Jeannette, tu le sais que, et voilà, je vais pas dire mon poids, mais j'ai le gabarit, moi, je ne peux pas me plier comme ça, comme elle veut. Donc, bon, j'ai eu la communication avec eux, je les ai dissuadés. À une personne d'entre eux, ça fait quand même 4 ans que je suis à peine au beau mètre. Et franchement, il n'y aura pas besoin d'envoyer la force avec moi. J'ai des bleus sur mon bras que je vais faire constater là. Et donc voilà, courage. De toute façon, voilà, vous n'êtes pas les seuls. Ça s'est passé en 6 jours. Il y a eu trop de bordel, voilà quoi. Bon, de toute façon, moi je vais écrire et tout, je vais revendiquer mon tout. Je suis avec les filles aussi, je suis avec eux. Voilà, je lâche rien. Et voilà, par rapport à la période où il n'y avait pas de toilette dans la promenade pendant 20 jours, il y a des filles qui sont parties faire leurs besoins dans la promenade. On a une promenade de 3 heures. On ne peut pas sortir pendant 3 heures, quoi qu'il arrive. Même s'il y a une bagarre, ils interviennent à la fin de la bagarre. Voilà. Voilà, c'est aberrant, c'est un truc de malade, de locaux. Et voilà, donc, voilà. Bon, j'embrasse les filles, nous, franchement, sois fort, tu crées au cachot. Et les filles, vous savez, les vrais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup en prison des vrais. Donc, voilà, nous, on est là. Moi, ça, je n'abandonne pas. Et je suis là, je comprends, à l'origine, les filles. Et je reconnais que, franchement, pour moi, c'est le scandaleux. C'est que ce soit des filles de 19 ans qui sont sorties à peine de l'adolescence, on est là, on les traumatise. Moi, la foule que j'ai vécue dimanche, ça a été une agression. Hein, on a vu mes parties intimes, on m'a humilié, 3 personnes qui m'ont suivi. Hein, j'ai tremblé à la fin. Hein, j'étais comme si on m'avait violée presque. Et moi, ça, c'est pas normal, voilà, c'est humain. Hein. Et voilà, donc moi je suis une rebelle gentille, moi. Donc je rebelle, hein, mais gentiment, mais je suis une rebelle gentille. Et si là, je représente une sœur de prison, celle qui ont mangé des années avec moi, et celle qui vient d'arriver aussi. Et bon, voilà, qu'on ne peut pas trop prendre la conscience non plus.
Oui. Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Et donc, on vient d'entendre le témoignage de plusieurs prisonnières de la maison d'arrêt pour femmes des Baumettes, qui, comme on le disait, en fait, ont pris le risque de s'exprimer, parce qu'en dehors du risque légal, avec le risque de prétoire, de cachot, etc., il y a le risque aussi de la répression arbitraire, dont on a souvent parlé ici, quoi, de la répression par les matones, par l'administration pénitentiaire, avec des transferts loin de chez soi, etc. Mais qu'en tout cas, ça montre une belle solidarité à l'intérieur face à cette répression, que ça donne de la force, malgré les histoires hardcore quoi, qui sont racontées, parce que c'est un peu ce qu'on disait juste avant de laisser les témoignages. C'est que, en fait, ce qu'elle raconte, c'est une histoire d'agression sexuelle, en profitant d'une fouille et d'une résistance à une fouille pour agresser sexuellement une personne, quoi. Voilà. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que les MAF, en fait, contrairement un peu aux maisons d'arrêt pour hommes, il y a aussi beaucoup de prisonnières longue peine dans ces endroits. Et que donc là, la répression que vivent ces meufs, en fait, s'il y a des meufs, elles sont là pour 10 ans, quoi. Et on va y revenir un peu là, avec le témoignage d'une autre prisonnière qui, elle, a choisi de s'exprimer par écrit. Mais il y a quand même un truc qui est totalement narvalo. Moi, je dis pas que c'est normal dans les prisons pour courte peine, quoi, mais qu'il y a un truc où là, en fait, il y a des personnes, elles sont là pour longtemps ou elles sont là depuis longtemps et on leur met une misère qui est juste pas tenable sur le long terme psychologiquement, quoi. Et en fait, c'est juste, on pousse les gens à craquer pour récupérer des 13e mois, des salaires, porter plainte, blablabla, blablabla. Mais en tout cas, c'est quand même particulièrement chaud et donc c'est important que ça continue de se mobiliser à Marseille, en dehors et à l'intérieur, en solidarité, quoi. Et donc là, sauf si c'est un truc à rajouter, Arthur, on va...
Ouais, non, c'est un des trucs, on a enlevé certains témoignages, mais qu'effectivement, il y a des personnes qui appellent aussi à cette émission et qui disent qu'en fait, elles n'osent pas, elles, là, parler ou en fait, faire des déclarations publiques parce qu'elles elles veulent sortir, elles, là, il ne faut pas que leur sortie soit niquée. Et du coup, en fait, on les tient. Donc, en fait, le fait qu'il y ait autant de gens qui parlent, ça dit à quel point c'est de la merde. Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur. Et là, les gens, ils le disent. Ils savent qu'ils vont se prendre quelque chose, effectivement, de la part des matones qu'elles dénoncent. Et voilà, c'est pour ça que vraiment, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment important que là, à Marseille, il commence à y avoir des gens qui relaient cette parole et qui essayent de faire quelque chose à l'extérieur.
Et donc là, on va vous lire un témoignage qui a été écrit le 23 décembre 2012. Et donc, c'est quelques questions qui ont été posées à une ancienne prisonnière de la MAF qui revient aussi un peu sur cette question des fouilles violentes, des fouilles systématiques, de qu'est-ce que ça veut dire des parloirs actuellement à la MAF, et aussi des agressions des matons, des problèmes avec les fenêtres, bref... un peu dans la suite de ce qu'on vient d'écouter.
Ouais. Alors, on nous a dit qu'il y avait des fouilles depuis quelques mois qui étaient un peu vénères.
Donc ça, c'est, ouais. C'est l'envolé qui parle, et moi, je vais lire le témoignage de la prisonnière. Ouais. Il y a eu des grosses fouilles qui ont eu lieu, là, maintenant, où elles ont été menottées et tout. Malheureusement, elles se sont passées le lendemain du jour où je suis sorti, donc je ne peux pas trop témoigner sur ça, parce que je n'y étais pas. Après... c'est vrai qu'on a des fouilles qui sont perpétuelles en longueur de temps. Tout le temps, tout le temps. On s'est retrouvés pendant quasiment 3h30, sans toilette, sans eau, en promenade. Ils ont tout coupé. On a fait un blocage, et du coup, c'est finalement les Eris qui sont intervenus. Ils ont quasiment massacré les filles. Et il y a quand même une fille qui a fini au cachot pendant 20 jours, avec la mâchoire cassée, quoi. C'est assez costaud, quand même. Et toi, tu dis...
Toi, tu dis qu'il y a une fouille encore plus violente récemment ?
Ouais, il y en a une en particulier qui a été fouillée. Ils l'ont menottée, ils lui ont demandé de décoffrer un téléphone, d'écarter ses jambes. Ça reste assez particulier comme fouille. C'est assez particulier. Après, quand on descend en parloir, tu es tout le temps fouillé. Tu descends, tu es fouillé, tu remontes, t'es fouillé. Normalement, t'as une fouille mensuelle. Toutes les cellules sont fouillées tous les mois, ça, y a pas de souci. Mais c'est perpétuel, tout le temps, tout le temps.
Déjà, une fouille par mois, c'est énorme.
Mais je sais que j'ai été fouillé 3 fois en 1 mois par les ELAC. Normalement, c'est la surveillante qui vient pour la fouille mensuelle. Mais de temps en temps, c'est les ELAC qui viennent pour tout retourner. Moi, je l'ai eu 3 fois en 1 mois. La première fois, ils m'ont tout retourné. La deuxième fois, ils m'ont quasiment cassé les pots de confiture, vidé les pattes par terre, et la troisième fois, ils m'ont juste cassé les trucs. C'est inutile, inutile. Ils m'avaient grillé un téléphone, et depuis là, ils n'arrêtent plus. Ils n'arrêtent plus, mais après, les ELAC, ils n'ont pas à dire des coffres, quoi. On est des femmes, à un moment donné, il faut se détendre aussi.
Et l'ambiance là-bas, elle est pas trop vénère ?
Bah, après, tu as la bonne équipe. L'équipe qui est très compréhensive, qui va faire son boulot, mais qui est très humaine. Puis tu as la deuxième équipe, mais qui est du genre, je vais donner un exemple porté sur moi. Tu vas appeler ton fils à la cabine, tu mets un drapeau à 2h, et à 6h, on te dit, ah, excuse, mais je peux plus, tu as pas le temps, quoi.
Ça fonctionne souvent comme ça, en tout, une bonne équipe et...
C'est ça. Tu as la bonne équipe et la contre-équipe.
C'est comme ça que tu tiens les gens.
Ils peuvent pas mettre que les bonnes surveillantes, hein. La deuxième équipe, elle est là pour dire « Hé, cocotte, oublie pas que tu es en prison. Du deuxième étage au quatrième étage, tu n'as aucune possibilité d'ouvrir une fenêtre. Tu as des fenêtres fixes, avec des petits trous sur le côté, sur une paroi en fer. Mais c'est le seul truc où l'air peut passer dans ta cellule. Je te donne un exemple. Moi, je faisais pas à manger. Tu peux pas te permettre de faire des frites, tu vas sentir la friture à 400 km. Tu as tout dans la même pièce, ton linge, tes affaires. Déjà, tu fumes. Alors si en plus tu fais la bouffe par-dessus, c'est horrible. Des fois, on se relaye un peu pour faire à manger, mais bon après, tu es obligé de prendre la gamelle parce que ça te dégoûte au bout d'un moment. T'apprécies même plus de faire à manger. Entre les prisonnières, c'est comme partout, hein. Il y a des gens bien et d'autres qui le sont moins. Mais il y a une méchante solidarité. Malgré les disputes et certaines embrouilles, il y a vraiment une méchante solidarité par contre. Les gamelles, c'est comme partout. J'imagine qu'il n'y a pas qu'au Baumettes que c'est de la merde. Ils partent du principe que tous les dimanches, il y a un gâteau, mais on s'en bat les couilles de ton gâteau, tu vois ce que je veux dire? Si toute la semaine, tu as un steak haché qui est cuit, à la vapeur, H24 des carottes, H24 des courgettes cuites à l'eau, il n'y a rien. Après, ils te disent « Ouais, faut cantiner le sel, faut cantiner ceci, cela. » Mais bon, à un moment donné, tu es dans une prison. Tu es enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés. Tu peux rien faire parce qu'il n'y a pas de fenêtre, donc tu peux même pas te faire plaisir à faire à manger ou quoi que ce soit. Tu vois ta gamelle, il y a 2 saucisses, elles sont blanches, tu demandes ce qu'il y a dedans et il y a 3 carottes. Ça m'est arrivé d'avoir la moitié une tomate et 2 œufs durs. Hein. Tu te dis on part en pique-nique, c'est l'entrée et il est où le plat en fait?
Il n'y a pas eu de souci avec les cantines à la MAF?
Il y a souvent des problèmes avec les cantines dans le sens où souvent ils te déduisent de l'argent, mais au final tu n'es pas livré. Donc ils te répètent que tu dois sans arrêt écrire à la comptabilité. À savoir que la comptabilité ne te répond jamais. Mais jamais. C'est clair, net et précis. Après, oui, ça arrive souvent, où tu commandes. Bon, déjà, tu commandes, tu es livré 2 semaines après. À savoir que c'est un laps de temps de 15 jours. Souvent, quand tu prévois 15 jours, et qu'il arrive, et qu'arrivent les 15 jours, au final, et qu'il te manque la moitié des choses, tu te dis, c'est pas possible.
Attends, mais si on te déduit et on te livre, on vous gros de cas.
Exactement, ça arrive très souvent. À savoir qu'après, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même indigentes, d'autres qui n'ont pas énormément de sous tous les mois. Parce que voilà, quand tu prends certaines peines ou que tu cumules les années pour la famille, ça reste compliqué. Des fois, elles ont 150 ou 200 euros par mois, à savoir qu'elles fument. Donc, tu prends le tabac, tu remplis un petit peu les placards. Quand arrive le moment, tu n'as pas ce qu'il te faut, tu as un peu la haine, quoi.
Normal, tu dois péter un câble. Et pour les parloirs, ça dit quoi, la meuf?
Alors, ils sont beaucoup plus courts dans le sens où on est fouillé. En remontant. Donc, forcément, ils prennent l'excuse de nous sortir avant pour pouvoir être fouillés. À savoir qu'on est déjà séparés par une vitre, donc on ne peut pas approcher nos familles, c'est impossible pour nous. La vitre, elle part du sol, elle monte jusqu'au plafond. Donc, déjà, tu n'apprécies pas ton parloir. Les vitres ne sont pas forcément désinfectées. Donc, ils te parlent du Covid, mais au final, ils sont raccourcis dans le sens « Ben ouais, vous êtes fouillés par rapport au plan Vigipirate lié au terrorisme qu'il y a là actuellement. » Entre guillemets. Ils te disent que c'est sur les Baumettes, mais ce serait peut-être aussi sur toutes les prisons. Parce qu'on est en plan Vigipirate rouge, je ne sais pas trop quoi, par rapport au terrorisme. Moi, il arrivait un moment où je me suis dit, je vais descendre en paréo au parloir. À un moment, c'est bon de se déshabiller tout le temps. Moi, j'ai 30 ans. Donc tu vois, ça passe, mais je descendais avec une mémé qui avait quand même 64 ans. Donc au bout d'un moment, elle me regardait limite. Elle était à 2 doigts de pleurer à chaque fois. Donc ça reste un peu compliqué. C'est un quotidien qui est assez difficile. On est en prison, certes, mais ça reste assez compliqué, dans le sens où tu es obligé de prendre sur toi. Parce que quand il se passe des trucs comme ça, parce qu'il parle avec ta famille au parloir, et tu peux pas forcément rétorquer, parce que sinon il te lève le parloir. Tu as ton sac de linge, je te donne l'exemple. Mon frère, il me posait le sac de linge le samedi, et je le récupérais que le mercredi.
Ils font quoi pendant 4 jours?
Ils te disent que c'est 24 heures ou 48 heures par rapport au Covid. Donc il y a toujours une excuse derrière. Ils te disent « Ouais, le samedi et le dimanche, il n'y a pas de parloir. Le lundi, le temps que ça se mette en marche. Le mardi, il y a beaucoup de travail, donc ça monte le mercredi. Il y a toujours une excuse derrière. »
Bah ouais, mais c'est pas les mêmes enjeux pour eux et pour toi. On s'en fout de s'ils ont beaucoup de travail, c'est leur problème.
Bah ouais. Eux, ils sortent le soir, ils se lavent et se changent. Moi, je sais que tous les samedis, je faisais sortir mon linge à mon frère parce que tu vois, il y a une machine à laver par étage. Et il y a 30 cellules par étage. Des fois, je passais une semaine sans pouvoir laver mon linge. C'est impossible, quoi. Comme c'était la contre-équipe, eh ben, ils s'en battaient les couilles. Puis, tu as l'impression que des fois, elles sont là, et qu'ils le font exprès pour que tu leur tires quelque chose dans la tête, en fait.
Ils cherchent la prime, quoi.
Exactement. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Qu'ils fassent des fouilles, ok, mais il y a un minimum de respect à avoir. C'est pire à la MAF que chez les hommes. Chez nous, ça arrive qu'ils te menottent, ils te jettent au sol, ils t'écartent les jambes. Il y a une certaine limite. Il y a des filles, elles ont pris 10 ans. Elles sont là, elles se remettent en question, elles ont pris 10 ans. Pour des légitimes défenses ou n'importe quoi. Elles vrillent, les filles. Elles n'y arrivent plus. Là, il y a les colis de Noël. Elles ont droit de quasiment rien faire rentrer. Tout ce qui est périssable, tu n'as pas le droit. Donc en dehors du chocolat, il n'y a pas grand-chose. C'est assez compliqué. Donc oui, on se plaint. Tu prends l'exemple de Nîmes. Eux, ils ont même pas de colis du tout. Putain, ils ont enlevé les UVF, les relais enfants. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'activité, plus rien. C'est assez compliqué, quoi.
Voilà. Ouais. Et du coup, un des trucs qu'il y a dans ce témoignage et qu'il y avait aussi pas mal dans ceux qu'on a relayé l'émission, c'est ce truc, encore une fois, là, des vitres anti-bruit qu'ils ont installée là et dont on parlait aussi dans le journal. Et en fait, là, elle parle, donc ça, non seulement ça t'empêche de manger, en fait, ça t'empêche de faire quoi que ce soit, parce que toutes les odeurs restent. Et comme elle disait, en fait, tout ce que tu, en fait, en prison, tu fais tout dans ta cellule, de fait. Et donc, en fait, tu peux quasiment plus rien faire. Enfin, ça devient vraiment intenable. Et donc, on espère que, comme c'était appelé dans les coups de fil, elles ont pu taper sur ces vitres et bien faire chier les voisins qui avaient demandé à ce qu'elles soient installées pour les empêcher de discuter, parce que voilà, ces voisins étaient embêtés par les discussions des prisonnières de fenêtre à fenêtre, quoi.
Ouais, et voilà, puis en vrai je pense que ça montre aussi pas mal la solidarité qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Quand il y a des gens qui sortent et qui continuent de vouloir faire sortir les infos, de faire sortir la parole, alors qu'en vrai, bah, elles sont concernées, elle est concernée que parce qu'elle veut continuer à l'être en solidarité avec les potes qu'elle a eu à l'intérieur. Je pense que c'est assez fort et que voilà, du coup on leur envoie beaucoup de force. On continuera de donner des nouvelles dès qu'on aura l'occasion. C'est vraiment quand même assez vénère, en fait, ce qui se passe là-bas. Et du coup, voilà, dès qu'on a l'occasion, que ce soit par Joël ou par d'autres copains ou par des prisonnières à l'intérieur, on donnera des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Et là, on va vous passer un peu de musique. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan, cuando nos matan. Con precintos que atan. Que fake está mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. Que no sé para.
Lacrimógeno. que nada batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Donc comme on vous l'annonçait en début d'émission, on va maintenant consacrer toute la fin d'émission à l'infâme dont on a pas mal parlé ces dernières semaines et qui en fait nous a écrit un long texte qui le présente un peu parce que c'est quelque chose dans les échanges qu'on a eu avec lui. On s'est dit en fait ça fait presque 4 ans maintenant que l'infâme il intervient dans l'envolée sous différentes formes, mais un truc qu'on évoque souvent, parfois sans vraiment l'approfondir, c'est qu'en fait l'infâme ça fait partie de ses longues peines dont on parle souvent à l'envolée, quelqu'un qui ça fait presque 20 ans qu'il est à l'intérieur, il en a encore pour plus de 10 ans et donc voilà, l'idée de ce long texte qu'il a écrit c'est un peu de raconter ce parcours, de se présenter un peu plus longuement au-delà des interventions qu'il fait de temps en temps. Et donc, ça va être une longue lecture, et voilà, on voulait juste vous prévenir, on va mettre une musique au milieu pour que ce soit un peu, pour un peu faire une pause, mais voilà, ça va être une lecture de 33 minutes où il va revenir un peu sur tout son parcours depuis qu'il est jeune, quoi.
Ouais, et du coup, l'infâme, on avait donné de ses nouvelles déjà dans le numéro 52, pour celles et ceux qui l'ont lu, on a été revenu sur le fait qu'il l'avait transféré, soi-disant un transfert disciplinaire, depuis l'Annemezan sans le prévenir, donc c'est un peu un truc dont on parle assez souvent ici, quoi, avec l'administration pénitentiaire qui fait miroiter pendant des mois un transfert vers une centrale ou un centre de détention qui est plus cool, et au final, du jour au lendemain, tu prends un transfert disciplinaire, et tu te retrouves dans une des prisons les plus dures de France, c'est-à-dire Vendin-le-Vieil. C'était un peu le même scénario à l'époque avec Fabrice, on en avait aussi longuement parlé. Puis il y a un peu plus d'un mois, le 22 novembre, dans une émission que pour celles et ceux qui ont accès à Internet, vous pourrez retrouver, on avait lu une longue lettre de l'infâme toujours, où il racontait comment les matons de Vendin l'avait agressé hyper violemment physiquement, qu'il avait des séquelles qui continuent d'ailleurs toujours, et qu'on lui avait empêché après d'avoir accès à un médecin. Dans la foulée en fait de cette agression, les matons localement, ils ont continué à essayer de l'isoler encore plus, de le faire craquer. Donc en continuant de lui mettre des séries, en lui faisant sauter des lignes de téléphone avec des proches à lui, pour éviter qu'il puisse raconter, pour éviter qu'il puisse parler, pour éviter qu'il puisse sortir un peu de cet isolement dans lequel l'administration pénitentiaire le met depuis plusieurs années. Et du coup, là, on lui avait proposé à ce moment-là, c'est ce que disait un peu Arthur, c'était de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, parce que l'infâme, la dernière fois qu'il est rentré en prison, en fait, c'est à l'âge de 17 ans, et que maintenant, il approche les 40 balais, quoi. Et que du coup, en fait, il a fait à la fois tout un tas de prisons, tout un tas de types d'enfermement, avec beaucoup de peines à l'intérieur, parce qu'à la base, c'était il est rentré pour une peine de 8 ans, et qu'il y est toujours, quoi.
Ouais, juste pour compléter ce que tu disais, est-ce que c'est bien, c'est vraiment pour ça que pour nous c'est important de relayer, de faire sortir et de faire tourner sa parole, c'est que il y a eu l'histoire de la ligne téléphonique, il y a eu l'histoire de courriers qui sont retenus au moment où il essaye de dénoncer des choses qui se passent à l'intérieur. La paix retient le courrier et le menace de porter plainte pour diffamation ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment en permanence un travail qui est fait par la paix pour l'empêcher de communiquer avec l'extérieur et de raconter ce qu'il subit. Et juste pour compléter ce que tu disais, est-ce que c'est vraiment ça le texte là pour nous, ce qui est important de le montrer, c'est que c'est en fait ce qui se passe là à Vendin-le-Vieil avec l'infâme, c'est pas juste la paix qui s'acharne sur une personne au hasard. C'est vraiment, en fait, et il l'explique très bien dans son histoire, c'est comment, en fait, la paix le fait craquer à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'il y a une petite accalmie, en fait, il y a des gens qui sont là pour le pousser à bout. Et comme tu disais, c'est pas que pour lui, hein, c'est un truc, c'est une gestion des longues peines qu'on retrouve malheureusement souvent ici. Avec la paix, et voilà, donc le but c'est vraiment de, et là encore une fois, avant d'un le vieil, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est déjà passé plein de fois pendant sa détention et qu'il va raconter là, quoi.
Et on rappelle que Vendin-le-Vieil, c'est une des prisons les plus sécuritaires de France, qui a été inaugurée sous Taubira, où il y a le double de matons par rapport aux prisonniers, et que voilà, tout est fait là-bas pour que les gens y craquent, et donc c'est vraiment une tôle faite pour gérer ceux qu'ils ne peuvent pas gérer, parce qu'ils leur ont mis tellement de peines de prison que c'est limite des peines de mort à l'intérieur. Donc là, on va vous passer l'enregistrement. On revient dans 33 minutes. On n'aura plus beaucoup de temps. Donc on commentera vite fait pendant 2-3 minutes. Et on en parlera peut-être un peu plus dans la prochaine émission.
Décembre 2020, un soir glacial comme tant d'autres, au Terminus, tard dans la nuit. Quartier d'isolement de cette prison du nom de Vendin-le-Vieil. Coucou les loulous. Dur ce soir de mettre sur papier ce que je m'apprête à écrire, car je sais que je vais être lu par beaucoup de personnes, incarcérées ou non. C'est chelou et je ne sais pas d'ailleurs absolument pas par où commencer. Donc faisons simple par commencer. Donc je vais commencer par la fin. Peut-être cela m'aidera-t-il à mettre tout cela en ordre avant d'entrer dans le vif du sujet. Enfin bref. Donc tout d'abord, le plus important, les merci. J'adresse un gros merci à vous, les amis, poteaux et anonymes de l'envolée qui une fois de plus me permettaient de faire entendre ma voix. Comme d'hab, sans filtre. Et tout comme je vous adresse un gros merci très sincère et profond pour l'amitié et le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je parle entre autres d'Arthur et Alex, merci à vous, de Sylvia, la sœurette, à Serge, le taulier, à K du Sud, à Joël et l'ami invisible de Marseille, tous deux fraîchement débarqués dans les personnes qui me soutiennent. Ainsi qu'à toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre et que je ne connais pas forcément, mais qui sont là, œuvrant chaque jour pour contribuer à mon soutien. Et à celles et ceux aussi dont j'ai su le prénom, mais qui, je m'en excuse, j'ai oublié. À vous aussi mes plus belles pensées et un gros merci pour votre soutien et votre amitié sans faille et indéfectible. Merci à vous tous et toutes. Tout comme j'adresse aussi à toutes les nanas de France incarcérées dans les prisons ou dans les CRA, courage à vous les filles. Vous êtes des battantes, des lionnes. Par ces mots, je vous envoie plein de belles ondes, beaucoup de force et de courage à vous, mesdames. Et à tous les gros, les gars sûrs, qui chaque jour ne baissent ni la tête, ni les yeux, ni le froc, sauf pour la fouille encore, à tous ceux qui résistent à la hagra du monde carcéral, que ce soit au sein des prisons françaises, tout comme des CRA. Courage à vous, les gars. Tenez bon, un jour ou l'autre, on sera libre, quoi qu'il arrive. Et n'oublions pas les petits gremlins dans les quartiers mineurs, ceux qui foutent la zic à fond, qui jurent comme les charretiers, qui moulonnent à 10 celui qui fait le kéké dans la cour de promenade parce qu'il fait 120 kilos. Gros big up à vous, les petits sauvageons. Du reste, que j'apprécie pas, aucun mot gentil pour vous, mais pas d'insulte non plus, car la censure pénitentiaire veille au grain, comme dit l'expression. Donc, pour en revenir à nos moutons, à moi à l'occurrence, l'idée est plutôt simple, mais la pratique l'est un peu moins. En fait, ce sont quelques amis de l'Envo qui m'ont soumis la chose lors d'une de nos multiples discussions. L'idée, c'était que beaucoup d'entre vous me connaissent sous le pseudo de l'infâme. Beaucoup d'entre vous, lecteurs et lectrices de l'Envolée, me connaissent à travers certains de mes écrits ou de mes quelques interventions en direct lorsque j'ai pu avoir la chance d'être diffusé à la radio. Seule une petite poignée de personnes que j'appelle mes intimes ou mes gars sûrs connaissent ma vie privée et carcérale, et ce, qu'ils fassent ou non partie de l'Envolée, et qu'ils soient ou non incarcérés. Plus sérieusement, au début, j'étais pas très chaud pour faire ça, non seulement parce que je me disais tout d'abord « mais qui ça intéresserait de savoir ça ?» mais ensuite derrière la gamberge bien trempée, mais bien ordinaire aussi. Donc, sur ma vie, je vais essayer de faire court. J'ai vu le jour pour la première fois il y a un peu moins de 40 piges. Je suis issu d'une mère franco-berbère algérienne et d'un père tunisien. Ma jeunesse a été une jeunesse dont j'ai peu de souvenirs en réalité. Un père inexistant parce qu'il n'a pas assumé son rôle de père. Une mère très peu présente, violente et pas affective du tout. Des beaux-pères qui se sont succédés mais que me concernant, je n'ai jamais aimé ni apprécié car trop violent pour qu'un môme de mon âge puisse apprécier. Alors que j'ai 6, 7, 8 ans, un homme qui, parce que c'est un alcoolo et un connard fini, me fait agenouiller sur des capsules de bière retournées et en chronométrant combien de temps tu vas tenir avant que tes talons touchent les fesses, car il fallait garder la position à genoux tendus. Et quand les talons touchaient les fesses, il me tabassait comme il tabassait un homme de son âge, sauf que je n'avais à l'époque que 6, 7, 8 ans. Comment aimer quelqu'un qui fait subir de telles choses? Et encore, ça c'était le moins violent des trucs, mais bon, passons. De 9 à 14 ans, placé de foyer en foyer, de famille d'accueil en CER-CEF, je ne trouve pas ma place dans ce monde, ou presque. C'est à l'âge de 9 ans que je commets mon premier acte d'une violence extrême. À alors que je dois effectuer donc à 9 ans un périple seul en train du foyer dans lequel je suis alors pour rentrer chez moi, pour rentrer le week-end à 850 km de là, que je mets un coup de couteau dans la gorge à un type chelou qui essaye de m'entraîner au fond du train. Je ne sais pas trop bien ce que j'en ai une bonne idée de quel aurait été mon sort si ce jour-là je n'avais pas eu le couteau sur moi. Toujours est-il que depuis ce jour-là, le monde s'ouvrait à moi avec brutalité pour ne pas changer. De 12 à 14 ans, je ne suis plus un petit, et je suis alors bien ancré dans des actes criminels qui aujourd'hui encore me vaudraient la perpétuité avec 22 piges de sûreté si on venait à me soulever pour ça. Vous comprenez toutes et tous que je ne peux pas me permettre de m'épancher sur ces sujets. Mais parmi ce que je peux dire, c'est qu'à 12 piges, du petit chouffe que j'étais, je passe au grade de pilote pour des go-fast. À l'époque, ça se passait pas comme maintenant. Quelle imprudence. À 13 piges, de pilote, je passe au grade de semi-grossiste en pilon. J'ai vite arrêté. C'est pas mon domaine, et j'y ai perdu bien que je n'y ai gagné. À 14 piges, la rencontre. Un vrai Youvois par qui j'avais fait quelques petites missions nettes et sans bavure, me met en contact avec des Youvois. Et là, je me mets en contact avec des Yougos. Et là, je me mets dans les armes et les explosifs, mon domaine de prédilection. Et je ne sais pas si c'est par chance, par hasard, ou du fait de la bonne fée clochette, jamais les condés ne m'ont levé ou serré pour ça. Je suis passé entre les gouttes, mais ça n'a pas duré. 15 ans et demi, premier contact avec le milieu carcéral, le quartier mineur, 6 mois. Je respecte rien ni personne, crache sur les lois, la justice, sur les surveillants, et surtout, je tape tous ceux qui me pètent les couilles, que ce soit justifié ou non, pas pour impressionner qui que ce soit. Mais parce que j'étais comme ça, d'ailleurs ça me jouera un sale tour plus tard. Quelques mois de calèche plus tard, retour chez moi, et par là même j'avais oublié l'année d'avant, j'arrête d'aller à l'école, à 14 ans. Je suis alors en 4e général et suis, en fait, plutôt destiné à un avenir scolaire très prometteur. Mais la vie en décidera autrement. Car une mère trop feignante pour aller travailler et préférant vivre sur l'oseille que seul je faisais rentrer à flot, elle préférait délaisser ses enfants, faire les boutiques, aller boire des cafés chez ses copines, tout en magouillant des combines, tout aussi tordues les unes que les autres. Donc non seulement il me fallait m'occuper d'elle, mais aussi payer les loyers, payer de quoi manger, et de quoi veiller aussi à ce que mon frère et ma sœur, alors en très bas âge, aient de quoi manger et se vêtir correctement. Et tout ça n'était pas compatible avec une scolarité assidue. Mes proches, surtout mon frère et ma sœur, passant avant tout le reste, il n'y avait aucun choix à faire, c'était évident, arrêter et être l'homme de la famille. Et même si aujourd'hui tout ce petit monde m'a lâché, je ne regrette absolument rien, car j'ai fait ce qu'il me semblait être mon devoir de frère. Au moins, chaque jour que Dieu fait, je peux me regarder en face, sans avoir honte de ce que je vois dans le miroir. Bref. Donc, 15 ans et demi, je passe mes 16 piges en tôle et je sors. Pas content du tout de ce que je vois chez moi, un nouveau beau-père, ma mère, toujours dans ses magouilles à deux balles sans qu'elle retire les doigts du cul pour tenir son rôle de mère, toujours les mêmes crapuleries et violences. Je me dis, cet été, après mon retour du bled, je me casse, je me prends mon appart et ciao pantin. Et ça s'est passé comme ça. Sur ma mère s'en est doutée. Elle n'en était pas contente, croyant que je laisserais la famille sans le sou. Elle tentera de me tuer en m'empoisonnant et heureusement j'en échapperai. Et j'ai aussi failli mourir sous les coups de mon père qui m'a mis une raclée d'anthologie dont je vous passe les détails. Là aussi, j'en réchapperai. Mais c'était décidé, dès que je rentre, bye bye la compagnie. Pas content de ça, alors même que je continue à assumer tout ce petit monde, ma mère me fait enfermer chez les fous, en psychiatrie. Je réussirai à m'en barrer une quinzaine de fois, mais repris à chaque fois car mineur, je serai piqué comme jamais. Je sortirai de là-dedans toxico et amorphe. Pendant tout ce temps, ma mère aura déversé son fiel de la façon la plus horrible qu'il soit. Elle aura fait croire, avec plus ou moins de réussite selon les personnes à qui elle s'est adressée, que j'aurais attouché sexuellement ma petite sœur. Chose totalement fausse, mais que voulez-vous, une gamine de 5-6 ans à l'époque, manipulée par une personne comme ma mère, n'a pu que se laisser retourner le cerveau. Et même si ça m'a fait, et me fait encore beaucoup de mal tout ça, ma sœur n'était qu'une gosse de 5-6 ans, je lui en veux même pas. Même si à l'âge qu'elle a aujourd'hui, c'est une vraie connasse. Mais bon, je lui ai pardonné ça depuis belle lurette, impossible par contre de pardonner quoi que ce soit à ma mère, je peux pas, c'est viscéral comme truc. Elle a d'ailleurs bien essayé de vouloir porter ça en justice, sauf que personne ne l'a cru. Et tout le monde a bien le vrai visage de cette mère indigne à ce moment-là. Mais ça a détruit ma famille, et ça m'a détruit aussi. Alors à corps perdu, de 16 à 17 ans, je navigue entre petites peines chez les mineurs et vie de gros voyous, même si je déteste dire ça. En sillonnant la France et l'Europe, à faire les 400 coups, à vendre des rames et des explosifs qui ont du 7,65 au Scorpio. En passant par des grenades et des lance-roquettes type RPG-7 ou AT-4, en passant par le Semtex, le C4 ou le TATP. Bref, chez moi, pour qui voulait s'armer sérieusement, j'avais toute la panoplie de l'armurerie de guerre. Je me suis gavé comme jamais, sans parler des belles soirées, des putes et bons restos. La vie de rêve, quoi. Mais c'est comme tout, les bonnes choses ont toujours une fin. C'est ainsi qu'un soir de novembre 2000, par une froideur de fils de pute, j'ai rendez-vous avec ce que sera désormais mon avenir au long terme, sans que je le sache tout à fait. Je suis arrêté par un petit groupe de keufs, non sans leur avoir pété quelques chicots au passage, pour le principe. Et une fois en gave, on me dit que je suis accusé d'extorsion de fonds, avec usage d'armes, d'un vol à l'arraché, qui lui avait été commis 2 ans plus tôt, de possession de munitions et d'armes de guerre, car je me déplaçais jamais sans mon Desert Eagle calibre 50, avec 2 ou 3 chargeurs pleins, au cas où, et de coups de blessure sur les keufs avec qui t'étais de plus de 3 jours. Mais ce jour-là, j'ai 2 grammes d'alcool dans chaque œil, et comme un couillon pour m'expliquer tout ça, je sors un mytho que même un gamin de 10 piges n'aurais pas cru. Un peu plus de 48 heures plus tard, avec quelques claques et quelques coups d'annuaire plus tard aussi, restant sur mes positions bien balourdes, je me retrouve au quartier mineur, aux arrivants, seul, sans vraiment comprendre ce qui vient de se passer par contre. J'ai bien compris que cette fois-ci, ça n'allait pas être quelques mois, mais peut-être 2, 3, voire 4 ans au plus. Long, mais bon, faisable. Comme j'étais loin du compte. Au final, comme j'étais jugé chez moi, à la campagne, et que chez moi, de tels faits, c'est quasi comme le casse du siècle, digne des plus grands braqueurs tels que sont ceux que tous les bonhommes connaissent, ont au minimum entendu parler, dont par respect je tairai les noms, car je ne n'arrive pas à la cheville à ces messieurs-là. Résultat, je mangerai 10 piges en première instance et 8 en appel. À ce moment-là, j'ai plus de force. Mes jambes me lâchent, réellement. Je tombe assis sur le banc des accusés. Mon monde s'effondre. Puis la hyène, le loup, le grizzly et le mec insolent et irrespectueux qui sommeillait jusque-là a repris le dessus. Je me remets droit sur mes jambes et j'interpelle le proc général. « Eh, garçon, 8 ? Mais quoi, 8 semaines, 8 mois ? Comme si mes oreilles avaient pu se tromper. » Et là, il me dit « Non, 8 ans ferme. » Et là, ma bouche lui sort des insultes, qui, je crois lui-même, il a jamais entendu de toute sa vie, tellement c'était inédit comme phrase, mais avec des larmes de haine dans les yeux. Je rentre en prison, il fait chaud, c'est l'heure de la promenade. Elle a déjà commencé, mais le surveillant voit que j'ai besoin de sortir. J'essaie de rouler une clope, mais j'y arrive pas. Toute la promenade est vivante, ça parle de tous les côtés. Puis un ancien me roule une clope et me dit d'une phrase que j'oublierai jamais « Alors petit, c'est quoi le tarif ?» Et je lui dis 8. Il me sourit et il me dit « 8 mois, bravo, tu les as bien niqués. » Je lui dis « Non, 8 piges. » Et là, plus un bruit dans la promenade, sauf un couillon qui rigole et qui dit « 8 ans, laisse-moi rire, ce que t'as fait, ça mérite 3-4 ans au max. » Et là, il aura mieux fait de fermer sa bouche. Je crois qu'à main nue, j'ai jamais défoncé quelqu'un toute ma vie autant que ce jour-là. Et après l'avoir bousillé, je lui ai dit « T'aurais mieux fait de fermer ta gueule, regarde dans l'état que t'es maintenant, t'as l'air malin, hein ?» Résultat, 2 fois 45 jours de cachot et 3 ans en plus. Et je me bats, encore et toujours, année après année, cumulant peine interne sur peine interne, m'éloignant un peu plus à chaque fois du dehors. Pendant ce temps-là, ma mère, eh oui, encore elle avait mis la main, je sais toujours pas comment, sur mon petit magot que j'avais mis de côté pour assurer ma zonze en cas de coup dur. Bon, rien de bien énorme, il y avait l'équivalent d'à peu près 100 000 euros. À l'époque, c'était encore les francs. Pour les vieilles branches qui veulent pas faire la conversion, j'avais un peu plus de 620 000 francs de côté. Mais 620 000 francs en 2002, presque 2003, ça représentait encore à l'époque une très belle somme. Elle était venue me voir Maxi 5 fois au parloir, puis 1 ou 2 fois les 2-3 ans qu'on suivit, pour ensuite me dire « Bon, t'es grand maintenant, en prison, t'as la possibilité de travailler, donc t'as pas besoin de moi. Bon, et bien c'est la dernière fois qu'on se voit, et on se reverra si jamais un jour tu sors de cabane. » Et tu comprendras sûrement que la vie coûte cher dehors, donc je garde tes sous, ceux qui sont dans le sac de sport. Ils me serviront plus à moi qu'à toi. Allez, bisous, à plus tard. Hein. Et là, comme au tribunal, impossible de me lever de ma chaise. Mes jambes me soutenaient plus, j'aurais voulu crier ou l'insulter ou même lui dire « Attends, tu fais quoi là ?» Mais impossible de sortir un mot de ma bouche, et je suis resté là, assis comme un con. Et le surveillant qui vient et qui me dit « Alors, bon parloir ?» Et même si dans ces mots, il n'y avait rien de méchant, rien de haineux, je vous jure. Bam, bim, bam, boum, badaboum, il a mangé le compte. Résultat, 3 ans de plus, et en prime, c'était nouveau de la part de la paix, un petit envoi en HO chez les oufs, où je serais pendant des jours et des jours piqué de force parce que je voulais pas leur cacher. Et la psychiatrie où je me trouvais, comment vous dire, à poil avec une couverture de 2 mètres carrés, épaisse de 4 cm, un matelas au sol, dans une pièce appelée « chambre d'isolement sécurisée », qui faisait d'est en ouest 9 pas normaux et du nord au sud 4 pas, presque 5, avec un seau pour pisser et chier, 2 repas par jour, 3 si on compte le petit-déj, et avec 2 pauses clopes au bon vouloir des infirmiers. Un calvaire total. Et ce genre de choses, bien qu'ayant en termes de conditions inhérentes à la dignité humaine, en termes de prise en charge, ayant quelque peu changé en 20 piges, il y a des lieux qui restent encore des aberrations sans nom, où la paix continue, même à ce jour, à envoyer des personnes détenues dans ces endroits-là, quand elle ne sait plus les gérer. Sans que ces détenus aient forcément le moindre problème psychiatrique. Et ça, pesant que les cachets ou les piqûres de force vont mettre le détenu dans le rang. Il existe même en France une prison à vocation psychiatrique qui s'appelle Château-Thierry. Très exactement, le centre pénitentiaire de Château-Thierry. Une partie CD et une autre partie QMC. Et pour ceux qui connaissent, pour y être allés et qui en ont entendu parler, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ignorent cela, voyez, à l'époque où j'y étais affecté, à quoi ça ressemblait côté QMC. Douche insalubre, un peu pareil à l'époque de l'insalubrité des douches de Fleury Mérogis en 2003. Il y en a même qui prenaient les douches pour des WC publics. Genre tu prends ta douche, d'un coup tu sens une odeur de merde te flatter les narines et le mec, en chiant, il te regarde d'un air con comme si c'était normal. Et il dit bah quoi. Bah bim bam boum badaboum, la prochaine fois que t'auras envie de chier dans la douche, t'y réfléchiras à deux fois. Il y a aussi les cellules avec les planches au sol, qui étaient tellement pourries qu'elles partaient en miettes, comme un gâteau sablé mal cuisiné. Des cantines hors de prix, une aide indigence quasi inexistante, pas de taf, une seule formation qui durait 5-6 mois, qu'est la formation pâtisserie. Mais qui est attribuée aux balances et aux mecs psychiatriquement salement touchés, des cachetonnés qui crient et hurlent toute la nuit, et qui dorment le jour. Et des surveillants et une équipe médicale violente à souhait. Tant dans les actes que dans les décisions prises pour justifier de te piquer le cul, un exemple de violence gratuite des surveillants. Il y avait ce qu'on appelait entre nous le « quoi-quoi ». Ça, c'était terrible. Si tu prenais la tête avec un mauvais, sans l'insulter et sans le menacer, il n'y avait pas le dessus sur toi, car pas effrayé par ce genre de personne. Le truc ultime, ce qu'il disait, c'était « quoi-quoi ». Tu m'as dit « nique ta mère à moi », mais en gueulant ça fort de ouf, comme s'il y avait réellement embrouille, alors que non. Bon, des fois, les insultes changeaient selon le surveillant, l'humeur du surveillant ou autre. Ça faisait rappliquer tous ceux aux alentours, et avant que tu puisses comprendre pourquoi ou comment, tu te faisais défoncer comme jamais. Dans l'étage tout d'abord, sur le chemin du cachot ensuite, et pas tout le temps, mais souvent, au cachot pour finir. On en rigolait après coup, histoire de pas sombrer dans la folie, quand on en parlait entre nous. On se disait « Wesh alors, t'as mangé un quoi-quoi de base ou un quoi-quoi royal ?» Le royal, c'était quand au cachot aussi tu mangeais des coups. Alors on se disait pour réponse « Ah les enfoirés, ils m'ont fait un royal ou un quoi-quoi basique. » Il y avait aussi le « Attends, on revient. » Et si j'avais pu choisir, manger un quoi-quoi, même royal, aurait été préférable à un « Attends, on revient. » Le « Attends, on revient » consistait à aller voir, le ou les surveillants, sur les mecs comme moi. Et toujours, soit parce que ta gueule lui revient pas, soit parce que verbalement il a pas le dessus sur toi, quand tu la ramènes pour faire valoir ton ou tes droits, et que ça l'emmerdait plutôt qu'autre chose de pas l'avoir affaire à un cachetonné. Psychologiquement, à aller voir l'équipe psy, il leur disait « Le détenu peut être dangereux et pour lui et pour vous, faut faire quelque chose. » Et ce qui se passait ensuite, je vous laisse apprécier. La psychiatre prescrivait sur le champ une injection neuroleptique avec des noms de prototypes de vaccins contre les cancers de la connerie. Les agents allaient s'équiper avec leur tenue d'intervention. Et effectivement, une promesse étant due, ils revenaient. Mais pas pour danser la capucine. Ils ouvraient la cellule, ils te démontaient la gueule bien comme il faut, et ensuite t'attendais une infirmière qui te disait « Vous avez besoin de vous calmer, la psychiatrie vous a donc prescrit une injection. » Et c'était parti pour une picousse dans le cul qui allait te démonter le corps et l'esprit pendant un bon 2-3 semaines. A savoir aussi une chose, c'est qu'à l'époque, problème psychiatrique ou non, la première chose que te dit la psychiatre à la première entrevue arrivant, c'est « Je vois bien que vous n'avez pas de traitement, bon, je vous mets quand même une injection en si besoin. » Toi, tu rétorques « Mais madame, j'ai pas besoin de ça. » Elle te répond alors la chose la plus inacceptable qui soit « Deux choses, vous n'êtes pas psy, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous ou pas, par contre, moi je le sais. » Et ensuite, deuxième chose, ici c'est le protocole, et le protocole, il est pour chaque détenu le même. En rajoutant quelque chose qui te fait sentir le coup fourré à des kilomètres. Espérons que je vous dise vrai, et que vous n'en ayez jamais besoin, je vous le souhaite. Pour le moment, c'est du « si besoin », mais ça peut changer. La première fois que j'ai fait Château-Thierry, j'y suis resté plus d'un an et demi à subir mois après mois ces choses-là. En sortant de là, deuxième fois de ma vie que j'étais redevenu un toxico. Sauf que là, c'était extrême, j'ai même pas le souvenir. Et il a fallu que je voie ça par des vidéos prises par des poteaux en détention pour y croire. Mais à cette époque-là, quand je sortais en promenade, il m'arrivait de manger des vers de terre, des insectes ou même des mégots de clopes. Je me pissais dessus, je me chiais dessus sans même m'en rendre compte. Et à l'époque, c'est un petit groupe de frères musulmans indignés de me voir ainsi qui me lavait, qui me changeait. Et j'ai réussi à sortir de cette toxicomanie grâce à un ancien, l'ami Pilou. Coucou à toi, vieille branche, si un jour tu lis ça. J'ai même pas oublié ce que t'as fait pour moi. Respect, le vieux bouffeur de frites pas cuites. Petit clin d'œil à toi, l'ancien. Et ouais, cet ancien-là m'a sorti de ma toxicomanie en me retirant tous mes cachets pour les remplacer par de la fumette. En plus, il a pris en main et m'a remis au sport. En 10 mois, je me suis passé de toxico sur le point de crever en machine à muscles. Je faisais 120 kilos, pas un gramme de graisse, je courais 2 heures de footing, même le week-end, et je soulevais 140 kilos au développé couché par 10 ou 15 séries de 30. Une vraie machine. Mais là encore, j'étais encore tout plein de haine et de colère, que j'exprimais à coups de poing, de lames de rasoir, de tournevis ou de boules de pétanque. Et forcément, la peine se rallonge encore, et les mesures qui t'enculent la vie, toujours aussi dures quand la paix n'a pas les moyens de gérer ça. Côté perso, à cette époque-là, ça fait au moins 10 piges que j'ai pas pu en parler, et que j'ai pas eu parlu, et que mes proches m'ont lâché. Pour la plupart, volontairement. Pour le reste de ceux qui ne sont plus à mes côtés, qui n'ont pas choisi, ça c'est le résultat des guerres familiales que ma mère, et ouais, encore elle, a engendrées. De ce fait, 10 piges aussi, sans courrier, sans mandat, la chienneté totale. Et quant à penser ou à réfléchir à la possibilité d'une vie sentimentale et ou amoureuse, autant demander à un aveugle combien tu lui montes de doigts en ayant les mains dans le dos. Il y a peut-être une chance qu'il te donne la bonne réponse plutôt que de trouver une nana. Donc le vide total.
ايوا هيك عم تحكي مع الناس العنف عندهم مقدس وين ما روح بضل محبوس في هذا القفص ولا نفس هاي كمان واحد القتل هاي كمان واحد الحبس كمان واحد الخلع لبس شو اللي عم بيصير ما في تفسير مش شايف غير مسيل للدموع ممنوع اعمل اللي بدي اياه لازم انسى الحياة بتمنى بس لازم ازبل انت الدنيا كلها صارت عنا ماذا استطيع صعب اكتب بقدر ما في مواضيع عم بضيع فكرته عن السلام بيعمل اللي بده اياه انت ضل كله كل شي تمام عشو عم بشكي جبالي يطلع عمل غير اشي بدل ما طلعت هون حاس حالي ضعيف خليني اطلع بدا اعمل اشي تسجل في التاريخ ما انا هيك يا مقتول يا جريح رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فقدت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك انسرقنا من أرضنا بلدنا انغلبنا عحالنا انقلبنا اقنعونا وتدربنا نحمي إسرائيل من حالنا صرنا ممسوكين عساكر وين ما كان بسولي كل هاد لمين وين الملايين وين الملايين اللي بدها تحرر فلسطين قاعدين بشموا كوكايين وبيستغلوا الدين اتفاقيات مع مجرمين الجثث رميين لازم نعمل حركة هلا ما نستنى بدل ما انت قاعد جوا الشاشة عم تتفنى عصيان مدني شرطة صمت مدني جدار ما بكفي حطولي جرثومة في بلدي أول باقي منها وسكروا الهاتمها الحياة احتمى لا تمسك الزهر وفنها أنظمة جننها الانتفاضة مكنها أجراس النضال من رنها رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي وشو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش ايوه هيك حكام نازلين بيمرجوا لبعض وبنفس الوقت مستوطنات بتكتر تكبر تتوسع بدك يا تنحل خلي حكومتنا تنحل يمكن وقتها نقدر نروح محل شغلونا بحالنا بكفي شنك محبوس صفى اللي معك حابسك بتحكي عن تطور اسف بس مش شايف غير مسلحين قدام داري عبابيت جاري كل هالسليك كل هالسرقات عم واقف هيك وقاس انه زي الحيوانات شد الهمه بدل ما تركز على اشياء مش مهمه شو العمل لما ما يكون في امل شو العمل لما تكون حمايتي من زهران وهمل الله بعيد طلع علينا مش بس محزومين كمان ما بيعين بقدر استعين تليفون شوي صغيرة النجدة يمكن ينقذونا فجأة ايوه هيك شوف بنونا سجن وظبطونا اياه اكبر مستهلكين للبضاعه فتركونا الحياه عدوك صار ورا الجدار انساه دوقوا في بعض هلا والمقاوم بلاه 38 حاجز على رام الله لحالها وجوا النقط تفتيش للسلطه وخيالها وسع ممكن بده يمر والشعب يلز على الجدار ويفكر حاله حر فصائل بتضر واسرائيل بتزر سياسيين بتطلع على التلفزيون بتكر والاغلبيه لا معهد ولا هداك واحد بيقتل في شعبه واحد باعها للاعداء بيقول لك وضع استثنائي وهو استثناء كبرياء بتوف للكل فقراء واغنياء اذكياء واغبياء مذنبين وابرياء شهداء واحياء.
C'est ainsi qu'on m'envoie en psychiatrie en UMD, dite unité pour malades difficiles, à Sarreguemines. Alors je n'ai toujours aucun problème psychiatrique. Arrivé là-bas, la première question de la psychiatre qui me voit à mon arrivée me demande « Si je vous parle par télépathie, seriez-vous capable de me dire le repas de ce soir ?» Je lui dis « Franchement madame, vous êtes certaine que vous allez bien ?» Elle me répète sa phrase. Couillon comme je suis, je regarde comme un con l'infirmier qui est à côté d'elle et je lui dis « C'est quoi l'embrouille ? Vous me faites marcher ? Qu'est-ce que je fous ici ?» Et elle me dit très sérieusement « Oh, vous avez entendu ?» Je fais silence, j'écoute, à tout hasard. Il y a peut-être un truc qui se passe, quoi. Qui sait ? et elle me scrute, me jauge, mais au bout de 3 minutes, sans rien entendre, la situation commençant surtout à me casser les couilles, je lui dis perdant patience. Patience, pardon. Écoute, je ne suis ni télépathe et j'ai pas la super audition façon Superman. Au pire, je peux me proclamer le roi de la connerie ou me faire philosophe à mes heures perdues. Mais pour ça, il faut au minimum que je sois fortement alcoolisé. Je sais pas c'est quoi l'embrouille, j'ai pas envie de le savoir, mais toi, Mistinguette, t'as pas l'air très net dans ta tête. Alors, je sais pas si t'as pris des oxys ou si t'as fumé quelque chose ou que tu supportes pas, mais t'as pas l'air très clair comme psy. Rajoutant, je sais pas ce que t'as pris, mais ça m'a quand même l'air puissant comme truc. Donc soit tu me parles normalement, soit tu prends tes clics et tes claques et tu vas faire une patrouille en n'oubliant pas avant de me renvoyer de là d'où je viens, car à mon avis j'ai pas du tout ma place ici, mais toi apparemment si. Et regardant l'infirmier, j'ai cru à une blague d'une seconde et je lui ai dit pensant que l'UMD aurait pu être mixte, en fait t'es en train de me faire une blague et elle c'est une patiente, c'est ça? Et là elle dit, oh non, il nous envoie encore quelqu'un qui n'a rien à foutre ici. Et là, je lui dis excédé, ah bah ça tombe bien, je pense la même chose que toi. Donc c'est simple, si j'ai rien à foutre ici, renvoie-moi d'où je viens. Et là, elle me dit, ça se passe pas comme ça ici. Le protocole ici, et oui, la psychiatrie raffole des protocoles, c'est que quelqu'un qui est affecté chez nous l'est au moins pour 6 mois, au minimum. Ensuite, des experts évaluent. Ils sont 6. Et les 6 doivent donner un avis favorablement pour repartir d'ici. Si un 2 vous donne un avis négatif, c'est reparti pour 6 mois de plus. J'ai passé 6 mois d'enfer sur Terre là-bas. Des picousses de force, mise en chambre d'isolement. Et l'isolement là-bas, c'est une dinguerie. H24, vous êtes attaché des pieds à la tête. Des repas. Pff. C'est eux qui nous donnent à manger avec des fourchettes aux cuillères épaisses, en espèce de carton qui vous laisse un goût de merde dans la bouche. Vous mettez des couches pour les petits vieux incontinents en guise de WC. Pour boire quand t'as soif, tu dois gueuler comme un sourd dans une chambre quasi insonorisée. Quand tu vois passer une fois tous les ST glinglin à un infirmier à proximité. La douche, c'est eux qui te lavent le cul, uniquement le matin. Et pour éviter que tes muscles s'actrophient, ils te massent les jambes 3 fois par jour. Et si t'es calme, te laissent marcher au moins sur moins de 6 mètres carrés, 2 fois 10 minutes par jour. Et tenez-vous bien, le prétexte pour le psy de la zonze où j'étais à l'époque, qui était NCIM, pour justifier un envoi là-bas, c'était que j'entendais des voix et que j'avais des hallucinations visuelles et auditives, et que j'étais schizophrène. Chose totalement fausse, mais impossible à prouver tout le temps que j'étais pas encore arrivé dans l'UMD. De retour dans l'UMD, la rage d'avoir à subir ça. Je vous le donne en mille. Boum, badaboum, le psy. Je lui ai donné une réelle occasion de se plaindre de ma violence. Résultat, encore une peine de ouf au compteur. Après quelques transferts disciplinaires de plus, j'arrive à la centrale de Moulins-Yzeure. Là-bas, les conditions de détention à l'époque y étaient à peu près viables, vivables et acceptables, sauf à mon arrivée. Placé au QI direct, vu que j'étais une fois tabassé par un surveillant, un soir de service de nuit, mission punitive. Sauf que vu que je m'étais un peu calmé, je me suis protégé du mieux que j'ai pu sans me défendre. Dès le lendemain, certificat médical, dépôt de plainte, etc. Quelques mois après ça, je suis entendu par des OPJ, je m'explique et ils repartent. Je me dis peine perdue. Mais bon, j'ai l'habitude, ça fait plus d'un an que je suis là-bas. Je taffe, je paye, mes parties civiles, etc. Donc ça va, un après-midi on me fait appeler. Les keufs, ils me disent, en septembre tu passes au tribunal en tant que victime de la mission punitive d'il y a un an. Je me dis, la classe, il y a enfin une justice. Et une bonne news n'arriva pas sans une autre, à peine sortie d'avec les keufs, je suis appelé au greffe. Affectation accordée pour le CD de Châteauroux. Là c'est la fête. J'appelle à l'extérieur 2-3 poteaux, les gars bonne nouvelle, bientôt le CD, j'ai signé l'affectation, donc bien la condie, etc. Sauf que d'autres ne le voyaient pas sous cet angle-là. Et par un super après-midi d'août, à peine entamé, fin de promenade, un surveillant m'appelle et me dit « Attends, faut que je te parle ». Au lieu de l'envoyer chier, je le mate, je vois que j'ai jamais eu de soucis avec lui, donc je me dis qu'il va peut-être me féliciter pour mon affectation au CD ou ce genre de conneries. Quel con j'ai été. J'aurais dû ne pas le calculer, l'envoyer chier et passer mon chemin. Sauf que je m'arrête. Il me dit tout d'abord, d'une voix un peu tremblante et mal assurée, « Tu sais les collègues, ce que t'as fait, c'est pas cool. » Je sens l'embrouille arriver, mais je lui dis « Je vois pas de quoi tu parles, je veux pas savoir. Allez, salut !» Et je commence à vouloir me barrer, sauf qu'il me bloque, volontairement le passage, se met 3/4 sur le côté, comme prêt à me taper la main droite dans le dos. Je lui annonce de suite la couleur, je lui dis « Je sais pas ce que tu veux, ni ce que tu cherches surveillant, mais sache une chose, si ce que tu caches dans ta main est une lame ou tout autre pour me faire du mal ou me créer du tort, au risque que ça me mette dans la merde de ce que je vais te dire, sache bien ce 6 mois, je suis armé actuellement. J'ai aucun problème avec toi, j'en ai jamais eu, je te veux aucun mal, j'ai eu mon affect en CD. » Et je viens tout juste de renouer avec un peu de famille. Si on va au casse-pipe, tu me fais perdre tout ça. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Là, il me dit, ok, mais alors tu retires ta plainte contre les copains. Et je comprends à cet instant-là que je vais tout perdre. Une fois encore, je lui dis que je ferai jamais une telle chose. Ils ont déconné, à eux d'assumer. Mais sans toi, t'as rien à voir dans tout ça. Alors j'oublie tes menaces, je fais comme si tu m'avais rien dit, et tout va bien pour tout le monde. Là il me dit, t'as pas compris. Soit tu retires ta plainte, soit je vais te faire comprendre. Et je lui répète une fois, deux fois, trois fois, huit fois, neuf fois. S'il te plaît, surveillant, fais pas ça, arrête, je veux aucun mal, arrête, tu vas me ruiner ma vie si tu me contrains à te faire du mal. Et là il me dit, eh bien, je vais te faire comprendre, moi. Et là, c'en était trop, je savais qu'il lâcherait pas l'affaire. N'étant pas un mouton, mais dans un cas comme celui-là, le mec sans cœur, violent, est toujours prêt à en découdre si je suis contraint. Mes mots ont été clairs. Tu veux me faire comprendre quoi, espèce de... Avec la petite insulte qui va avec, et que je tairai, car la censure pénitentiaire veille au bon respect de ce que je dois aux agents, donc étant bon élève, je vous laisse imaginer. Ce à quoi le surveillant me répond, en levant sa main, où je vois sa lame de rasoir arriver droit sur ma carotide, qu'on s'en prend pas à nous comme ça. Et là, si je me recule pas de quelques centimètres, je la prends en plein dans le cou, sa lame. Et le pire, c'est que tout a été filmé par 5 ou 6 caméras de promenade. Et c'est bien lui qui tente de me porter le premier coup. Manque de peau pour moi, mais aussi pour lui, moi j'ai pas manqué l'endroit visé. Il m'a pas vu sortir ma lame et n'a d'ailleurs même pas senti que je l'avais tailladée sur une douzaine de centimètres derrière l'oreille. L'endroit choisi était délibéré et calculé, car à cet endroit-là, ça saigne beaucoup, comme pour une arcade. Les soins ne sont pas lourds à supporter, ne laissent quasi aucune trace si c'est bien recousu, mais ça impressionne celui qui le subit. Et démontre, d'un sens, que mon acte n'était pas fait pour le violenter salement. Que à cet endroit-là, j'aurais prouvé, en plus, sachant tout ceci filmé, la légitime défense. Quelle naïveté de ma part d'avoir pu croire ça. Au final, je perds tout. Famille retrouvée, perdue. Transfert en CD, perdue. L'idée de condit, perdue. Par contre, ce que j'ai trouvé au bout, c'est une peine de plus. Mais avec les excuses publiques du tribunal, hein. Car on avait demandé le visionnage en direct dans le tribunal de ces 19 minutes filmées. Selon ce qu'il m'est dit, pour une situation indépendante de leur volonté, les scellés, au lieu d'être exploités, ont été détruits. Je risquais alors à l'époque une peine de max de 10 piges. On m'en a mis que 3, en me disant que je devais être heureux de ne prendre que 3 piges. Ce à quoi j'ai répondu, non, je m'estime pas heureux de tout ça. Par contre, vous, estimez-vous heureux par une situation indépendante de votre volonté? Les celliers, au lieu d'être exploités, ont été détruits, comme vous dites. Car si ça n'avait pas été le cas aujourd'hui, en montrant du doigt le surveillant que j'avais tailladé, c'est lui qui serait sans doute accusé, mis en examen, et probablement écroué pour tentative d'homicide avec préméditation. Ce à quoi le juge a voulu répliquer quelque chose que j'ai pas écouté, lui donnant comme une seule réponse un signe de main. Allez, allez, dégage, dégage. Et on apprendra par une indiscrétion, 3 mois plus tard, que le chef des scellés au tribunal à cette époque-là n'était autre que le beau-frère du surveillant. Moi, j'en déduis que, quelquefois, la famille, ça a du bon. Mais pas dans mon cas, dans cette affaire. Et à chaque fois où j'essaie de sortir la tête de l'eau, que je suis proche de la condie, que je réussis à monter les dossiers béton pour y parvenir, à chaque fois, il se passe un truc de ouf qui m'en empêche. Et c'est comme ça depuis 2008-2009, et je pourrais vous donner 1 milliard d'exemples comme celui-là. La paix m'a bousillé ma vie, mon avenir, ma santé, physique et psychologique, a parfois commis le pire contre moi. Et ce, à raison quelquefois, comme quand en début de peine, je respectais rien ni personne, que je tapais sur les surveillants, même sans raison qu'ils l'auraient justifié, comme l'exemple où j'ai démoli ce surveillant qui m'avait dit « Alors, bon parloir ?» Oui, dans des cas comme celui-là, ce que j'ai pu prendre dans la gueule en retour, que ce soit de la paix ou de mes actes par les condamnations sévères, j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule et de dire ça c'est à cause de la paix. Moi seul en ai le responsable et le fautif, et j'en assume les conséquences. Mais ces actes-là où je suis fautif sans l'ombre d'un doute ne sont rien comparés à ce que la paix m'a fait. Car en termes de quantité, de proportion sur toutes les peines que j'ai prises en interne, celles qui me sont imputables par ma propre bêtise ne sont même pas 15% de tout ce dont je suis responsable. Tout le reste n'est que les fruits des multiples poussages, et non pas passage à l'acte, qu'il m'a fallu faire, soit pour me défendre ma vie, pour me faire entendre et préserver mon intégrité physique. Quoi qu'il en soit, ça fait presque 4 ans que j'ai rencontré de vrais amis qui font partie de l'envolée, de près ou de loin, que j'ai leur soutien et leur appui. Et ça n'a pas de prix. Mais malheureusement, mes conditions de détention et la misère qu'on me fait continuent toujours et ne s'arrêtent jamais. Pour celles et ceux qui ont lu le numéro 52 de l'envolée journal, peuvent avoir une petite idée de cela en lisant mon écrit page 35. Mais même de telles attaques ne sauraient justifier que qui que ce soit puisse me museler, me contrôler, me faire devenir un mouton. Ou un automate qui dit « oui, monsieur » à tout ce qu'on lui fait subir avec un « je vous remercie, au plaisir de subir, hein ». Non, je continue et continuerai toujours à me battre. Pacifiquement, comme je le fais depuis déjà plus de 15 ans. Bien que ça en fait déjà 20 ans passés entre 4 murs sans avoir pu regoûter à la liberté. Pour faire valoir mes droits d'être humain, mes droits de détenu, mes droits d'homme, de mon droit à un avenir hors des murs d'une prison. Mais pacifiquement, ça ne plaît pas non plus, car ils n'ont plus les motifs passés de la violence pour justifier tout ça. Les subterfuges sont différents, mais leurs objectifs restent les mêmes. Moi, c'est ma façon de faire qui est différente. Plus de violence, et je fais marcher mon intellect, ma tête, et plus du tout mes muscles. Mais comme eux, moi, mes objectifs restent les mêmes de ce que je me suis fixé. Sortir, et le plus vite sera le mieux, de ce monde carcéral qui bousille, détruit les corps, les âmes et les vies. Mais voyez-vous, je suis bel et bien vivant, et ma combativité pour être libre un jour n'a absolument rien perdu de sa superbe. Je sortirai vivant de prison. Le tout, je l'espère, c'est que ça arrive le plus vite possible. Et ce, même si parfois il m'arrive de douter de cela, et où j'ai envie de tout laisser tomber, de lâcher l'affaire. Mais non, je résiste encore et toujours. Donc voilà les loulous, grosso merdo, un peu là, à va-vite, un peu à la va-vite, 20 piges de galère derrière les murs, mêlés de combats, de petites victoires, de lourdes défaites, mais surtout, de refus de me laisser avaler par la vie, de refus de me laisser broyer par un système carcéral fait pour broyer, pour casser, pour punir tous ceux et celles qui osent s'opposer à l'innommable, à l'inacceptable. Cet endroit où l'impunité règne pour certains, mais où l'injustice règne pour d'autres. Mais je reste confiant et combatif, en attendant que des jours meilleurs me soient un jour accessibles. Et bien que je sois quelqu'un de très ordinaire, sachez tous et toutes que certes la vie entre quatre murs peut pour certains être un vrai calvaire, mais trouvez en vous la force d'avancer. On est tous en prison, des anonymes parmi les anonymes. Mais vous avez ce pouvoir, celui qui est de la volonté, de ne pas se laisser broyer. Et pour les plus faibles d'entre vous, vous les fortes, restez unis et solidaires. L'union et la solidarité, c'est notre force. Ne laissez personne vous prendre ça. On nous a tellement pris. Je terminerai donc comme j'ai commencé en vous disant tout d'abord à vous les filles incarcérées en prison ou en CRA, un grand courage à vous. Soyez fortes les lionnes. Je vous envoie plein de force et mes plus belles pensées. Prenez soin de vous et courage. À vous les gros et à vous les petits gremlins, ne lâchez rien. On avance tête haute, torse bombé, droit vers la sortie. Restez unis et solidaires les frérots, y'a que ça de vrai. Force et courage à vous, les vrais, les bonhommes qui n'oublient pas leur couille à la fouille. Tenez bon. Et à vous les amis de l'Envo, vous qui me soutenez depuis le début, comme celles et ceux qui me soutiennent depuis, récemment, vous, sans qui je n'en serais pas là où j'en suis, si je n'avais jamais croisé votre route. Vous qui me donnez tant de force, de respect, d'amitié, de façon sincère et indéfectiblement. Vous grâce à qui je réussis à entrevoir un peu le bout du tunnel, et vers qui l'amitié et la relation de confiance que l'on a ensemble et que vous me donnez au quotidien depuis tout ce temps, sachez que je sais bien que tout cela, non seulement n'aurait jamais été possible sans vous. Je vous dois beaucoup. Mais les mots me manquent pour vous dire toute ma reconnaissance et l'honneur que j'ai de vous avoir comme ami, comme soutien. Comme main tendue et comme épaule sur laquelle me reposer quand plus rien ne va. Alors je vais faire simple, en 5 lettres. Merci. Et sache que je lâche rien, que je ne lâcherai jamais rien. Car moi je suis l'infâme et l'infâme ne lâche rien. Car les loups et les lions, comme moi, ne pactisent pas avec les chèvres. Il n'y a pas d'arrangement et il n'y en aura jamais. Car ma dignité, mon honneur et mon intégrité morale ne se monnaient pas, ni ne se marchandent. L'infâme.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, donc là on vient d'écouter un long témoignage qui a été lu par un poteau, donc un long témoignage de l'infâme, auquel on voudrait déjà passer beaucoup beaucoup de force. On sait que tu risques pas de nous entendre, mais voilà, on passe beaucoup de force poteau. Bon bah c'est un témoignage qui est quand même hyper dur à écouter, où il y a beaucoup beaucoup de trucs qui sont racontés. Là on n'aura pas l'occasion de revenir sur tout ce qui est dit dans ce témoignage. On essaiera la semaine prochaine, pour celles et ceux qui écoutent toutes les semaines, de revenir un peu dessus, voilà, un peu plus en détail. Là on voulait juste, parce que c'est un peu central dans ce témoignage, revenir sur Château Thierry et sur un peu ces questions là de prison, qui sont à la fois des prisons, des hôpitaux psychiatrique, en fait tous ces croisements entre les lieux d'enfermement et la manière de gérer des prisonniers en fonction de catégories ou d'étiquettes que tu peux leur assigner. La semaine dernière, en fait, on avait déjà parlé avec Kamel Daoudi et plus sur les questions d'étiquettes étrangers, terroro, comment tu peux te retrouver en assignation à résidence, CRA, prison à vie, etc. Et là, en fait, l'infâme, il raconte très bien comment, une fois que tu es pris en charge par des psys, donc en plus d'être en prison, il y a genre toute perte de prise de décision possible, et tu te retrouves à être shooté dans des trucs genre totalement hallucinants. Ici, on avait eu pas mal de témoignages à certains moments de Château Thierry ou d'autres prisons sur où ils utilisent ce genre de camisole psychiatrique, de camisole chimique, pardon, ou de médoc pour shooter en masse des gens. On sait qu'il y a souvent des doutes qui tournent sur des gamelles, sur soit en centre de rétention ou ailleurs. Et du coup, on pense que c'est hyper important en fait de donner la parole aux prisonniers qui sont passés par là pour raconter comment l'État met en place des systèmes de torture pour en fait terminer les prisonniers. Et c'est un peu ce que tu disais, Arthur, juste avant qu'on lance l'enregistrement, c'est qu'en fait l'infâme, il s'est retrouvé à tout un tas de moments de sa vie face à une administration qui avait décidé de le casser et qui pourrait plus se rebeller. Donc c'est passé par Château-Thierry, par les Médocs, par le fait de le rendre tox, etc. C'est passé aussi par des agressions de Maton, on y reviendra peut-être plus la semaine prochaine, à Réau, où après ça, en fait, il est obligé d'avoir un respirateur la nuit, à Vendin, où on le massacre et il prend tellement de gaz que finalement il a un problème d'audition avec une oreille interne qui est totalement déglinguée. Enfin voilà, en fait, c'est genre tout un tas de traumas pour essayer de calmer et de briser les gens. Et beaucoup de force à lui, parce qu'en fait, c'est un gars qui a genre une force de taré et qui en fait réussit à être malgré tout toujours debout et à pas se laisser avoir par la paix, quoi.
Ouais, parce que un des trucs là que tu dis pour moi qui est important, c'est qu'on voit bien là-dedans que les psys, on parle souvent du fait que les psys sont les collabos de la justice, voilà, au tribunal, mais là on voit bien que c'est aussi les collabos de la paix pour enfermer des gens. C'est quand même assez fou le pouvoir que prennent ces gens, qui sont vraiment des pouvoirs du coup de juge, vu que c'est eux qui décident de te prolonger de 6 mois sur des critères complètement arbitraire. Et voilà, donc c'était là, il y a vraiment ce côté-là, je trouve, dans ce témoignage qui est assez fou. On voit aussi, parce que quand il est jeune, en fait, il passe aussi par les quartiers mineurs, on voit comment il est pris en charge quand même par tout un tas d'institutions qui sont là pour le maintenir sous contrôle, le maintenir enfermé. Et c'est vrai que c'est toujours ça qui est assez impressionnant avec l'infâme, c'est que malgré tout, il garde la patate et aussi le sens de l'humour quand il écrit. Et voilà, ça fait quand même malgré tout assez chaud au cœur, quoi.
Et du coup, on en reviendra un peu plus en détail la semaine prochaine. On va terminer l'émission là.
Ouais, juste pour dire que celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient écrire à l'infâme, comme on le dit, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par un mail ou par courrier, et on lui transmettra votre message, on vous transmettra ses coordonnées si vous voulez directement lui écrire. Voilà, en tout cas, il est très ouvert à recevoir du courrier, comme vous pouvez l'imaginer. Il est plutôt isolé en ce moment à Vendin.
Ouais, et il y en a besoin. C'est à la fois une manière de montrer de la force, de lui donner de la force, et c'est aussi une manière de montrer à l'administration pénitentiaire qu'il n'est pas tout seul face à eux, et qu'au contraire, plus ils lui mettent la misère, et bah plus eux, nous on va réagir de dehors, on va le soutenir, et moins il sera seul, quoi. Et du coup, ce que je disais, c'est que là, on va devoir malheureusement terminer l'émission, et on rediscutera tout ça la semaine prochaine. Je rappelle juste que pour nous contacter pendant la semaine, c'est au 07 52 40 22 48, que pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, que l'émission de la semaine prochaine, ce sera aussi une émission enregistrée, et qu'on reviendra en direct à partir de début janvier, et que la semaine prochaine, on continuera de parler de l'infâme, de donner des nouvelles de tout le monde, et on vous envoie beaucoup beaucoup de force dans cette période qu'on sait être particulièrement galère. Voilà. Ouais.
Il y aurait une rediffusion mercredi matin et 8h30.
Ouais, et comme on dit d'habitude, et bah, il n'y a pas d'arrangement avec eux, quoi. Is that the black Santa Claus? I want a Super Nintendo. Yeah. Sega Genesis. Street Fighter 2. It's 12:30 a.m. Christmas Eve, I'm out with the gangsters and thieves. Celebrated, posted up with eggnog, head up, up in my cup. Put Rudolph and Moses, Lil Bang, banging and coasting down the block, but be careful for the heart because it's posted. Some say to this day that Christmas ain't nothing but another day, but out of respect, I gotta give the Lord his day. Tell me, where do the homeless and bums got to sleep? Where do the hungry and the needy greedies got to eat? Life is so crucial and cold, that's for the children in this world, they hopes and dreams can't afford. The young and old churches and spiritual dreams, seasonal things heard throughout the ghetto reaches gangsters and dope fiends. Cause those who ain't able to get it now can finally get it, cause the ghetto Santa Claus sprinkled the hood, now we born and live into a new year, a better thing. Celebrate with some champagne. Ha ha, Santa Claus. On the first day of Christmas, my homeboy gave to me a sack of that crazy glue and told me to smoke it up slowly. Now on the second day of Christmas, my homeboy gave to me a fifth of Hen Dog and told me to take my mind off that weed. Now by the third day of Christmas, my big homeboy gave to me a
whole lot of everything, and it wasn't up a game to me.
Back then you woke up to the sound, I saw mama kissing Santa, made you reminisce on the old-fashioned Christmas days. Yes, miss a fat man jolly with joy, down your chimney with toys for little girls and boys. Pumped up, I jumped up before the sun peeked in, and hoped to catch a Santa Claus creeping down my halls. Run to the window, put my eyes to the sky, to see if I could see the sleigh that parlay and push the fat guy. I sigh, ain't no sign, but everything under this tree in my house is mine. My bike that and this plastic nine to do fine till next year come. I try to see the same thing, they got us brainwashed up. And when you find it ain't no Santa, Christmas still mean a lot, cause it's the time to get together and give all you got. You got food, good moods, and what's better than together with your peoples? Wear wishes, give a toast by the tree, it's Merry
Santa
Christmas.
Claus.
Might get shot.
Welcome to the ghetto.
Santa Claus on the ceiling. Jack Frost chilling. Pinch the Grinch for being a holiday villain. Season's greetings. All the proceeds are brought to you by the church house where we'll be eating. Chestnuts roasting on the open fire. Singing my jingle. Where is Kris Kringle? I didn't cop and I ain't even shout. I even stayed in the house when the homies tried to sneak me out. Now all I want for Christmas is my 6-4 Chevrolet and a granddaughter for her grandmother Beverly. Ain't that something? Nah, ain't that nothing? How it's Christmas time and my rhymes steady bumping. Everybody happy, happy. Hair still nappy, gonna steal a gift for my old grandpappy. Catch me giving out turkeys at the church house. Don't try to work me, just standing.